Hectare Mittal.
Ouvrier dans la ville en chantier.
Revue Z, numéro 9.
Je ne prendrai pas le métro avec vous. Certains ouvriers ont dû quitter la ville alors qu'ils attendaient une paye de plusieurs mois que leur refusait leur employeur. Alors j'ai juré que je n'y mettrais jamais les pieds.
Pervez a 26 ou 27 ans. Il sourit rarement. On ne le remarque pas. Il incarne le jeune homme en colère, celui qu'on voit au cinéma. Il a assez de colère en lui pour tuer quelqu'un. Ça, je le sais. Il vient d'un tout petit village en Uttar Pradesh. Il a travaillé dans différentes villes du pays. Il a construit des ponts, des routes, des lignes ferroviaires. Il a voulu devenir un ouvrier qualifié. Il sait qu'il en a les qualités, mais le système est tellement pourri qu'il pense que ça ne vaut pas la peine de se battre pour y arriver. Je crois qu'avec le temps, la désillusion l'a emporté. Peut-être sait-il aussi que le système ne le mérite pas. Pervez est un homme libre et solitaire. La famille, l'être ensemble, ce n'est pas son espace. Il n'aime pas que des gens lui disent quoi faire. C'est un vagabond, celui qui s'échappe. Un jour, il n'arrêtait pas de m'appeler. Finalement, j'ai décroché tard le soir. J'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il m'a dit « Écoute, il y a un flic en face de moi qui tabasse une femme. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je lui mettre une raclée ou rester à regarder ?» Il me pose toujours des questions difficiles. Il me décrit ce qui se trouve autour de lui. Un autre jour, il m'appelle. « Va dans ta salle de bain, tourne le robinet, est-ce qu'il y a de l'eau ?» Je réponds oui. Il dit « Moi, je tourne le robinet et l'eau ne coule pas. Pourquoi ?» Pervez m'aimait beaucoup, et j'ai commencé à l'aimer beaucoup moi aussi. C'est un amour mutuel, sans sexe, sans exclusivité, sans mariage. Parfois, il m'appelle. Il faut juste que tu m'écoutes cuisiner. Je mets l'huile, maintenant je coupe l'oignon. L'ail est bientôt frit. Ça sent bon.
Quand on a fait le film, beaucoup d'ouvriers étaient attirés par nous. Ils éprouvaient du plaisir à l'idée que des femmes viennent les voir. Nous étions les filles de la ville et nous nous baladions dans le quartier ouvrier. Ils ne comprenaient pas pourquoi nous faisions tout ça. Ils ont compris que nous ne venions pas d'un milieu si privilégié. Ils nous ont vus nous battre pour faire ce film. Ils nous ont aidés.
Abhimanyu était le grand frère du bidonville, une sorte de héros du Bihar. Chacun de ses gestes semble dire « Il n'y a pas plus fort que nous, nous avons déjà tout vu. » Il ne parlait qu'en poésie. Avec Abhimanyu, on pouvait être nous-mêmes. Un jour, il a allumé une cigarette et je me suis senti de lui demander de partager, alors que je n'ose généralement pas fumer en public. Ça ne se fait pas pour une femme. Il nous comprenait, plus que certains amis de la ville. Dans la chambre d'Abhimanyu, les sacs pendaient du plafond à cause des rats. Un jour, un rat m'est passé sur la jambe. J'ai fait oh! Abhimanyu me dit « Pourquoi tu as peur? C'est Ganesh !» Le compagnon du dieu Ganesh est un rat, dans la mythologie hindoue. Abhimanyu riait, il disait « Nous avons plein de dieux tout autour de nous, nous devons leur faire honneur !» Il y avait des plantes, dans des pots suspendus à l'extérieur. Il y avait cet effort de faire de la chambre un chez-soi. C'était un 10 mètres carrés, sans aucun meuble. Tous les hommes dorment collés. L'été, ils dorment sur les toits de tôle car il fait trop chaud à l'intérieur. Soudain, il y a eu une nouvelle habitante. On ne savait pas d'où elle venait. Pooja ne connaissait pas la ville. Elle est tombée amoureuse d'un des ouvriers, Manoj. Abhimanyu et son acolyte Ravi ont décidé qu'elle était abandonnée, qu'elle n'avait pas de famille, qu'il lui fallait un statut respectable. Alors, ils ont organisé un mariage. Ils ont donné une bague à Manoj et il l'a offerte dans un parc. Ils ont fait la cérémonie dans le bidonville. Les ouvriers ont célébré leur rituel. Il y en a un qui jouait le rôle du prêtre. Et puis, Manoj a dit « Il faut que je parte au travail. » Alors il s'est changé, il est parti. Pooja, la fille, s'est mise à pleurer. on est resté avec elle. Normalement, la tradition veut que les nouveaux mariés passent leur première nuit ensemble. Elle est restée seule. Abhimanyu lui disait « Pourquoi tu pleures? Lève-toi, arrête de pleurnicher, il va revenir demain matin. Tu vas passer toute ta vie avec lui. » Je ne sais pas si c'est une bonne chose, ce qui lui est arrivé. Elle est tombée enceinte, elle est partie vivre dans la famille de son mari au village. Manoj était un homme dur, je ne l'aimais pas beaucoup. Il buvait. Au bout d'un moment, elle nous a dit qu'elle ne s'appelait pas Pooja, mais Nazia. On a compris que les gens ne nous diraient pas toujours la vérité, parce qu'on est qui on est. Ça n'était pas important. Il y avait de la valeur dans nos échanges, du respect dans les rencontres qui sont arrivées.
Parfois, il fallait refaire le bidonville ailleurs, car les cabanes de tôle avaient été dressées juste là où la phase suivante du chantier démarrait. Il faut donc sauver les affaires, déplacer les tôles. Et la machine commence à creuser, à l'endroit même où les travailleurs dormaient quelques heures auparavant. C'est terrible, ils n'ont pas d'endroit où se poser. Toujours, petit à petit, ils laissent place à la machine. Ekta Mittal,
ouvrier dans la ville en chantier.
Revue Z, numéro 9.
Surender aimait marcher. Il avait peut-être 19 ou 20 ans. C'était un adivasi, comme on appelle les premiers habitants de l'Inde, dont beaucoup vivent encore dans les forêts. Il m'a décrit la plus verte des forêts, où les mangues étaient presque mûres lorsqu'il est parti. Ces mangues, tu ne peux les manger nulle part ailleurs. La manière dont il parlait de sa forêt, je n'avais jamais entendu ça. Il marchait longtemps, loin, vers le quartier Arkapuram, vers Electronic City, à la recherche de quelque chose qui lui rappellerait son village. Il disait souvent « Je n'ai pas besoin de manger, juste de marcher ». Nous avons commencé à bien nous entendre quand nous avons découvert que nous croyons tous les deux aux fantômes. Je lui ai raconté ma rencontre avec l'un d'entre eux et j'ai vu qu'il me croyait. Alors il a continué, une heure sans s'arrêter, à me parler des fantômes du Chhattisgarh. Lorsqu'il joue au foot, il y a ce fantôme qui surgit alors qu'il va chercher la balle dans un coin obscur où elle a roulé. Chez lui, le fantôme, c'est toujours l'interruption de quelque chose d'agréable. Quand il nous a raconté tout ça, la caméra est devenue invisible. C'est comme si les histoires devaient sortir. Maintenant, je vais aller le voir. Je connais le nom de son village. Je vais le trouver. Même s'il est devenu un fantôme.
Tous les ouvriers faisaient des heures supplémentaires. Une journée classique, c'est 8 heures, mais ils faisaient entre 12 et 15 heures. Ils gagnent 300 roupies par jour. Les heures sup, des fois on te les paye, des fois non, ça dépend des employeurs, qui sont plusieurs sur le site. Beaucoup d'hommes disent qu'ils font des heures supplémentaires pour passer le temps, parce qu'ils s'ennuient, qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils ne rentrent pas dans les cadres de l'idéal marxiste, quand tu penses à l'importance d'organiser les travailleurs. Je ne sais pas si le syndicat est quelque chose de désirable. Beaucoup disent qu'ils n'y croient plus. Certains ont été syndiqués, ça n'a pas marché. Ils veulent la liberté, ne veulent pas être contrôlés. Ils veulent juste gagner leur argent et pouvoir disparaître vers un autre chantier quand ils le souhaitent.
Shakti était le seul à nous parler de sexe aussi ouvertement. Il nous disait « Il y a cette femme qui vient dans mes rêves, c'est un rêve mouillé, après je dois me lever et me laver. » C'était le cuisinier d'un des quartiers du bidonville. Il était payé par les employeurs, car les ouvriers n'aimaient pas la nourriture de Bangalore, très différente de celle du Nord. J'ai rencontré Rana, l'année dernière, juste comme ça, sans la caméra. C'était après avoir présenté notre film au bidonville. Il a dit que c'était vraiment nul. « Pourquoi ne parlez-vous pas des conditions de sécurité des travailleurs? On n'a pas le temps pour les romances !» J'ai entendu ce qu'il disait. Le lendemain, on a parlé. Il m'a raconté comme il se faisait exploiter. On n'a pas été payé pour le pont qu'on vient de construire. Un jour, je suis allé au Punjab. J'ai rencontré sa mère, il me l'avait demandé. Elle m'a donné un billet de 500 roupies pour lui. Quand je suis rentré, je le lui ai tendu. Il a éclaté en sanglots. Avec ce billet, il perdait son honneur de travailleur. C'était lui qui aurait dû envoyer de l'argent. Avec les larmes, il perdait son honneur d'homme. Au Pendjab, on ne pleure pas devant une femme. Il est parti de Bangalore sans avoir été payé. Il attendait 50 000 roupies, l'équivalent de 4 ou 5 mois de salaire.
Ils ont perdu leur terre, mais il n'y a pas d'eau. Ils ne savent pas comment cultiver. Rien ne pousse. Au village, il y a des disputes familiales, des rivalités. La ville devient une échappatoire. Et le seul boulot disponible, c'est dans le bâtiment. Ça grossit, et un jour la ville va arriver jusqu'au village. Je leur souhaite de se faire des amis ici, et de recevoir leur paye.
Ashraf nous racontait comment il traînait dans le quartier du Majestic et retrouvait les travailleuses du sexe. Il passait du temps avec elles. Après, il disait « C'est vraiment mal que des femmes soient contraintes de faire ça. » Et puis, « Ce sont les femmes les plus chères avec qui passer du temps. Elles veulent toujours de nouveaux vêtements, elles veulent une glace, après elles veulent un café. Parfois, elles demandent « Viens en voiture. » Mais qui pensent-elles que je suis ?» J'ai compris qu'il avait beaucoup d'amis dans la ville. Ça s'est trouvé que c'était des prostituées. Il disait « Ce sont de belles personnes, mais je n'aime pas ce qu'elles font. » Il faisait attention à ce que la morale soit présente dans notre conversation. Il prétextait qu'il tentait de les aider à sortir de leurs conditions. Il jouait à l'homme convenable. Je me moquais de lui. Il n'a jamais accepté d'être filmé. Il disait « Jamais. Viens plutôt au cinéma avec moi. »
Ce métro, c'est un travail fait main, cousu par de multiples mains. Ce n'est certainement pas un travail de machine. J'ai vu tous ces gens faire de si petites choses, vous ne pouvez même pas imaginer. Un pilier, tant de travail, tant de mains. Pourquoi ne portes-tu pas de gants ? Ils vont se déchirer de toute façon. Ils ont abandonné toutes les précautions d'usage. Ils prennent le risque, c'est tout. 12 ou 14 travailleurs sont déjà morts sur le chantier. C'est inévitable. Ils sont des acrobates dans un cirque bizarre.